Detur Jesus Christus.
L'Union européenne présente sa stratégie dans la zone Indo-Pacifique, une coïncidence après l'alliance entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis dans la région. Nous irons à Bruxelles. À Mossoul, dans le nord de l'Irak, c'est une renaissance pour l'église Mara Thomas. Demain, sa cloche sonnera de nouveau. Une vraie joie, nous dira le curé de cette paroisse. Et puis dans notre dossier, la parole à Edgar Morin. Le philosophe a fêté ses 100 ans cet été. Il a toujours une réflexion aiguisée sur le monde, en particulier sur celui à bâtir après la pandémie. Nous l'entendrons à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonsoir, c'est un hasard du calendrier. Quelques heures à peine après l'annonce de l'alliance entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, l'Union européenne présentait à Bruxelles sa stratégie pour se positionner dans la région Indo-Pacifique. C'est la dernière manifestation en date de la volonté d'Ursula von der Leyen d'inscrire une Europe géopolitique parmi les priorités de sa présidence de la Commission. À Bruxelles, Pierre Benazé.
La région Indo-Pacifique, c'est pour les Européens 12 000 milliards d'euros d'investissements annuels, soit le double des États-Unis. C'est le deuxième marché d'exportation pour l'Union. Bref, c'est l'avenir, selon Charles Michel, le président du Conseil européen. Le centre de gravité mondial se déplace vers cette région, selon Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Et pour lui, l'alliance dévoilée mercredi par les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni vient à point nommé pour démontrer la nécessité d'une stratégie européenne autonome dans la région Indo-Pacifique.
Cette alliance ne fait que souligner que la région est très importante pour notre sécurité, pour nos capacités économiques. Et ça nous oblige à réfléchir à la nécessité de porter haut la question de l'autonomie stratégique européenne.
La stratégie européenne pour l'Indo-Pacifique repose sur une large palette d'initiatives qui comprennent en particulier des accords de libre-échange avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Indonésie, ou encore des accords de partenariat avec la Malaisie et la Thaïlande. Il y aura aussi des partenariats pour la gestion des océans, pour le numérique ou le changement climatique, pour la recherche ou la santé, de manière à permettre aux Européens de s'implanter durablement dans cette région Indo-Pacifique. Pierre Benazé, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
Et la France, elle, ne voit pas comment faire confiance à l'Australie. Déclaration ce vendredi du secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune, à la radio Radio France Internationale. Canberra a rompu unilatéralement un contrat signé avec Paris il y a plusieurs années sur la fourniture de sous-marins nucléaires. Le ministre a dénoncé une grave rupture de confiance de la part des Australiens. Le Conseil de l'Europe épingle une nouvelle fois la France pour l'état de ses prisons, le problème structurel de la surpopulation et les mauvaises conditions de détention dans de très nombreux établissements pénitentiaires françaises sont particulièrement mises en avant. Le comité du Conseil de l'Europe demande aux autorités françaises d'adopter rapidement des mesures pour mieux répartir les détenus entre les établissements. Et puis l'Europe, il en a été question aussi au Vatican ce matin. Le pape François a reçu en audience les responsables des commissions pour la catéchèse des conférences épiscopales d'Europe. Le pape qui leur a rappelé l'importance d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile sans faire du catéchisme une communication abstraite ni un objet de musée. Plus d'informations à retrouver sur notre site vaticannews.va. L'ONU prolonge sa mission politique en Afghanistan pour 6 mois. Dans une résolution signée à l'unanimité de ses 15 membres, le Conseil de sécurité souligne le rôle important que l'ONU continuera de jouer dans la promotion de la paix et de la stabilité en Afghanistan. Elle souligne aussi l'importance de la mise en place d'un gouvernement inclusif et représentatif de la société à Kaboul, ce qui n'est pas le cas avec notamment l'absence de femmes. Bien au contraire, les talibans qui ont signé d'ailleurs des ordonnances exigeant des femmes qu'elles démissionnent du service public pour laisser leur poste à des hommes. La journée s'annonce festive demain à Mossoul, dans le nord de l'Irak. La cloche de l'église Mar Thomas, située dans le centre historique de Mossoul, sera en effet inaugurée. Une cloche symbolique dans cette ville martyre, berceau des chrétiens d'Orient et envahie par l'État islamique en 2014, forçant sa population à l'exil. Le père Afas Pius est moussoliote, curé de l'église Mar Thomas. C'est lui demain matin qui va bénir cette cloche avant une procession et il nous partage sa joie. On l'écoute.
Ce sera la cloche qui a été commandée au Liban, un village qui s'appelle Beit Shabab. C'est le seul village qui fabrique les cloches pour le Liban. 285 kilos. La première cloche que nous avions à cette église, en 1935, a été aussi apportée et emmenée du Liban. C'est très, très beau d'entendre les cloches sonner, appeler les fidèles à la prière, qui rythme avec le Molla, qui aussi appelle les fidèles à la prière. Quand ça se mélange, l'appel de la cloche avec l'appel du muazzin. Ça veut dire vraiment, c'est la prière des fidèles qui monte au Seigneur. C'est pour vraiment demander sa protection, demander la paix pour cette ville, la bonne entente entre les habitants.
Voilà la joie du Père Afas Pius, curé de l'église Marthomas à Mossoul, interrogé par Marine Henriot. Plus de précisions sur cet événement demain sur notre site internet. Dans l'actualité africaine, une mission de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle est arrivée aujourd'hui en Guinée-Conakry. L'objectif est d'exposer aux putschistes les exigences des pays africains après le coup d'État qui a mis de côté Alpha Condé, à savoir l'organisation d'élections d'ici 6 mois afin d'y restaurer l'ordre constitutionnel. À la tête de cette délégation figure notamment le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, qui assure la présidence tournante de la CEDEAO, ainsi que son homologue ivoirien à la Hassan Ouattara. Sociologue, philosophe, ancien résistant, chercheur et écrivain, Edgar Morin, né le 8 juillet 1921 dans une famille juive, est l'un des grands intellectuels français du XXe siècle. Il est internationalement reconnu pour ses travaux sur la pensée complexe. Cet amoureux de la poésie qui s'est engagé ces dernières décennies dans les événements les plus marquants de notre histoire a connu le deuil. Il a perdu sa mère à l'âge de 10 ans, la guerre et de nombreuses crises politiques, économiques et sociétales. Depuis le début de la pandémie de Covid, il propose une réflexion stimulante sur les leçons de cette récente crise qui a plongé le monde dans l'incertitude et sur les changements nécessaires pour l'édification d'une société plus juste et fraternelle. Rencontre avec ce centenaire toujours passionné par l'humain et ses vicissitudes.
Cette pandémie, ça nécessite une pensée très ample, qui ne soit pas unilatérale. Ça, c'est une chose capitale. Et la deuxième chose, quitter un mode de pensée linéaire, où on avait l'impression que l'histoire progressait et qu'on pouvait prévoir dès maintenant l'année 2030, 2050, etc., sans tenir compte des énormes incertitudes. Il y avait le règne d'une pensée linéaire, d'une pensée purement quantitative qui ne voyait les problèmes humains qu'à travers le calcul, alors que le calcul ne comprend rien de nos émotions et de notre vraie vie. Donc, si vous voulez, le mode de pensée dont nous disposons n'est pas adéquat à penser pas seulement le monde ou nous-mêmes, mais la pandémie. Donc, ça nécessite une réforme de la connaissance. Il ne faut pas seulement changer de vie, il faut changer de voie, revenir à l'essentiel de ce qui est humain, c'est-à-dire les relations, la convivialité. Donc, si vous voulez, il y a une réforme de vie qui devrait sortir.
Le pape François, dans ses vœux lors de votre centenaire, a salué votre volonté d'édifier une société plus juste et plus humaine. Quelles sont les clés pour y parvenir ?
Il y a des préliminaires. Les préliminaires, c'est la prise de conscience de la communauté de destin de tous les êtres humains à l'époque de la mondialisation, c'est-à-dire des périls nucléaires, des périls de la folie fanatique, des périls de la domination du profit. L'humanité est dans une phase de son histoire pleine de périls et en même temps pleine de promesses techniques ou scientifiques. Mais même ces promesses ont un double visage. Elles favorisent l'idée très mauvaise, à mon avis, qui a dominé la civilisation occidentale, de maîtriser la nature et maîtriser le monde. Et le transhumanisme reprend les conquêtes actuelles de la technique, de l'informatique, de l'intelligence artificielle pour créer un homme soi-disant immortel. Ça, c'est une folie. Aujourd'hui, il ne faut pas faire l'homme augmenter, il faut faire l'homme améliorer à partir des sources bonnes qui sont en lui. La conscience de la communauté destin humaine serait un élément fondamental pour aller vers un autre monde.
Voilà, interrogé par Hélène Destombes, le philosophe Edgar Morin était l'invité de notre dossier, un entretien à retrouver plus en longueur sur notre site internet vaticannews.va. Son dernier ouvrage, Changeons de voie, les leçons du coronavirus, paru aux éditions de Noël. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous être aussi fidèles. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end.